Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir. Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Georges Kless.
Et à la réalisation, François Connac.
Moby Dick n'est pas une baleine, ou alors pas seulement. Moby Dick, c'est un diable blanc, un cétacé titanesque, un troublant, une montagne de neige au milieu de l'océan, le fossoyeur des morts sans sépulture et l'illusion d'un rivage au sein même de la mer. C'est un fantôme que les marins pourchassent. C'est le précipice dont parle Pascal, au devant duquel nous courons après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Il n'y a guère que la remontée du Mekong dans Apocalypse Now qu'on puisse comparer à une telle descente aux enfers. Moby Dick, c'est plus fort que la Bible.
Who's that bitch? Call me Ishmael.
Le lecteur entre dans Moby Dick en compagnie d'un ancien instituteur de campagne, fils de bonne famille des argentés, qui se fait appeler Ishmael. Il décide un jour de profonde neurasthénie de prendre la mer, comme d'autres mettent fin à leur jour. Une fois sur le navire de baleiniers nommé Pequod, il se fonde dans la masse presque anonyme des marins, témoin de l'obsession vengeresse du capitaine Ahab.
Il y a quelques années de cela, alors que j'avais peu et parfois pas d'argent du tout, j'avais pensé prendre le large et voir les océans. Chaque fois que je me sens d'humeur chagrine et mélancolique, chaque fois qu'un novembre pluvieux et glacial pénètre mon âme, je sais qu'il est grand temps pour moi de reprendre la mer. Quel que soit le chemin qui vous plaise et que l'on a choisi, 9 fois sur 10, il vous mène à l'eau.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Donc c'est le début du roman qu'on vient d'entendre et c'est un début assez étrange parce que le narrateur, hein, le personnage Ishmael, conclut une sorte de pacte avec le lecteur. Appelez-moi Ishmael.
Oui, c'est tellement bizarre. J'ai jamais vraiment compris ce début, mais c'est un bonheur d'en parler parce que il laisse au lecteur l'impression trouble qu'on a devant des choses dont la simplicité déconcerte. En même temps, il y a des choses à dire. En anglais, c'est « Call me Ishmael ». C'est pour ça qu'on l'a laissé entendre en anglais, justement. Dans le grand film de John Huston, donc « Moby Dick »,« Call me Ishmael », l'anglais dit mieux que le français cette façon d'être désigné par d'autres. En français, on traduit, et Giono lui-même d'ailleurs traduit par « Je m'appelle Ishmael ». Ici, il le dit à la russe. Vous savez, en russe, pour dire « je m'appelle », on dit « Minya Zavut ». « Ils appellent moi ». Minya Zavut Ishmael. Donc ce serait plus facile d'ailleurs de le traduire en russe. C'est intéressant parce que c'est un homme qui demande aux autres de le baptiser. C'est un homme qui est en fait le seul survivant du naufrage du Pequod. Pardonnez-nous, chers auditeurs, ceux qui n'ont pas encore lu Moby Dick, sachez que c'est un livre sans suspense, ça finit mal. Mais ça n'est pas le sujet du livre. C'est intéressant parce que c'est le seul survivant du naufrage, donc c'est le seul susceptible de raconter cette histoire. Donc c'est Monsieur Lambda, Ishmael. Mais ce Monsieur Lambda est celui qui n'a pas été baptisé, qui reçoit son nom d'un autre. Or, c'est une chose qu'on dit également du capitaine Ahab, celui dont la fureur vengeresse finira par couler son propre navire à la recherche de Moby Dick. Le capitaine Ahab ne s'est pas baptisé lui-même, c'est un caprice de son ignorante et cinglée veuve de mer qui mourut quand il n'avait que 12 mois, apprend-on dans le livre bien plus tard. Donc Ishmael comme Ahab ont en commun de n'avoir pas été baptisés. Deuxième remarque éventuelle qu'on peut faire là-dessus sur ce début célébrissime, Ishmael signifie « Dieu m'entend », c'est celui qui a l'oreille de Dieu. Ishmael, c'est celui que Dieu écoute, parce qu'il est pénitent. Or, Ishmael est aussi le seul rescapé du Pequod. C'est l'orphelin, récupéré par la Rachel, l'autre bateau, dont on découvre à un moment au cours de la narration, qui croise le chemin du Pequod, donc du bateau à la recherche de Moby Dick. Et la Rachel est un bateau qui... C'est un bateau biblique, tout est biblique dans ce livre. C'est un bateau qui a perdu son fils. Et donc, à la fin du livre... Ishmael, donc, celui dont le nom signifie « Dieu m'entend », à la fin du livre, est aussi celui qui reçoit son nom d'un autre, et c'est celui qui est sauvé, récupéré par celle, la Rachel, dont Dieu entend la plainte en lui accordant le droit d'enfanter. On est en pleine symbolique. Ce début magistral en dit long sur ce livre qui est tout entier écrit au futur. Mais c'est un futur particulier, c'est un futur certain. C'est pas un futur improbable, c'est un futur simple. C'est le temps de la prédiction. On pourrait parler d'un temps nouveau, ce serait un roman écrit au futur éternel.
Il y a une large place dans Moby Dick à la prophétie.
Vous avez un prophète, Élie, qui est le prophète de Nantucket. Dans Moby Dick, qui apparaît, c'est un chapitre tout à fait étonnant, magnifique. Mais avant d'en venir à ça, on peut lister les prophéties de ce livre. Enfin, quelques-unes. Relisant pour les besoins de cette émission le livre tout à l'heure, je suis tombé sur une de plus, si vous voulez. C'est dire combien certaines m'ont échappé. Le porte-voix du capitaine de l'Albatros, qui croise la route de Moby Dick, l'Albatros, l'oiseau blanc, on va parler de blancheur, tombe à l'eau. Au moment où il parle, mauvais présage. Les grandes écluses du monde des merveilles s'ouvraient devant moi, dit Ismaël, et dans les folles imaginations qui me faisaient pencher vers mon désir, deux par deux, entraient en flottant dans le secret de mon âme des processions sans fin de baleines, avec, au milieu, le grand fantôme blanc de l'une d'entre elles, pareil à une colline de neige dans le ciel. Ça, Ismaël le dit avant de croiser Moby Dick, et avant même d'apprendre l'existence de la baleine blanche. Il ne sait pour l'instant des baleines que ce qu'on en sait ordinairement, c'est-à-dire que ce sont des léviathans sombres qui sont susceptibles, éventuellement, rarissimement, de terrasser des navires. La baleine elle-même, d'ailleurs, est présentée comme blanche et ridée comme les collines de Jérusalem. Les coloris sont prédictifs dans Moby Dick. Il y a tout un jeu du blanc et du noir avant l'embarquement dans le Pequod, avant le moment où le navire prend la mer. Ismaël marche au hasard sur les pavés de New Bedford, blanchi par la neige. Et où arrive-t-il à ce moment-là? Dans une église nègre. Avant d'échouer, chez Monsieur Cercueil, Peter Coffin, chez Monsieur Cercueil. Or, c'est un cercueil, le cercueil de Kekweg, qui lui sauvera la vie à la fin du livre. Arrivé dans l'auberge, Ismaël tombe sur le tableau d'une monstrueuse masse noire, une tempête dans la mer noire. En fait, c'est un combat surnaturel des quatre éléments primaires, la débâcle des glaces au fleuve du temps. En fait, c'est un tableau du Léviathan. Dans le livre également, il y a tout un jeu entre la blancheur de la baleine, le chapitre dont on va entendre quelques extraits lus par Georges Claes, et le Kekweg, le harponneur sombre de peau qui devient son ami. La figure de Kekweg était profondément brunie de hâle, dit Ismaël, de sorte que, par contraste, ses dents éclataient de blancheur. Quant à la race des harponneurs en tant que telle, elle est le côté foutrement noir de l'humanité. Vous avez ce jeu du noir et du blanc en permanence avec une victoire du blanc. Une victoire du blanc, c'est-à-dire une victoire de la terreur, car dans Moby Dick, la blancheur est l'ambassadrice de l'épouvante.
Ayant déjà fait allusion à ce qu'était la baleine blanche pour Akab, reste à dire ce qu'elle était parfois pour moi. Sans parler de ce qui saute aux yeux à propos de Moby Dick et qui peut effrayer l'âme de n'importe quel homme, il y avait une autre image, ou plutôt une idée terrible d'elle, indescriptible toutefois, mais qui, par son intensité, dépassait parfois tout le reste. Quelque chose de mystique, voire d'ineffable, qui désespérait l'entendement. Par-dessus tout, c'est la blancheur de la baleine qui m'épouvantait. Bien qu'y ayant déjà fait allusion par ailleurs, d'une manière vague du reste, et au hasard de la plume, comment m'expliquer à ce sujet? Il est admis que la blancheur, par sa pureté, rehausse la beauté de maintes choses naturelles, marbre, lac, perles. Et il est connu que plusieurs nations ont donné une certaine prééminence royale à cette couleur sur toutes les autres. Les vieux rois barbares et grandioses de Pégu, avant tout autre titre, se disaient « seigneurs des éléphants blancs ». Et les modernes rois du Siam font figurer sur l'étendard royal ce même quadrupède blanc de neige. Le drapeau de Hanovre porte l'image d'un cheval blanc comme la neige. Le grand empire césarien d'Autriche, héritier de la tyrannie romaine, a pris cette teinte impériale pour couleur d'empire. Il faut bien admettre aussi que cette prééminence s'applique également à la race humaine, l'homme blanc passant pour le maître idéal de toute peuplade noire. En fait, il est vrai que la blancheur a toujours été considérée comme symbole d'allégresse. Chez les Romains, Une pierre blanche signalait une journée heureuse. Cette même teinte, entre autres attributs, est également l'emblème de maintes choses touchantes et nobles, l'innocence d'une jeune mariée, la bénignité de la vieillesse. Chez les Peaux-Rouges d'Amérique, le don d'une ceinture blanche était le plus précieux gage d'honneur. Dans de nombreux pays, blancheur est synonyme de majesté, de justice par l'hermine que porte le juge, et elle contribue quotidiennement à la pompe des rois et des reines, lesquels sont véhiculés par des coursiers blancs comme le lait. Dans les mystères les plus sacrés des plus augustes religions, la blancheur est le signe de la pureté du pouvoir divin. Chez les adorateurs du feu persan, la flamme blanche était considérée à l'autel comme la plus sacrée. Dans la mythologie grecque, le grand Jupiter lui-même s'incarne sous forme d'un taureau blanc de neige. Chez les nobles Iroquois, le sacrifice d'hiver du chien blanc sacré était de beaucoup la fête la plus sainte de toute leur théologie. L'envoi de cette créature immaculée et fidèle étant considéré comme le don le plus pur qu'ils pouvaient faire au grand esprit avec le récit annuel de leur propre fidélité. Il est également vrai que c'est du mot latin signifiant « blanc » que dérivent les noms d'une partie des vêtements consacrés que les prêtres chrétiens portent sous la chape, aube, etc. Dans les fastes sacrés de l'Église romaine, le blanc sert spécialement à l'office de la Passion de notre Seigneur. Dans la vision de saint Jean, des robes blanches revêtent ceux qui sont sauvés et les 80 anciens vêtus de blanc se tiennent debout devant le grand trône blanc dans lequel s'assied le très saint, blanc comme la laine. Cependant, cette accumulation de tout ce qui est doux, honorable ou sublime n'empêche pas une sorte de peur mystérieuse cachée dans l'idée qu'on se fait de cette couleur. Quelque chose qui, bien plus que le rouge effrayant du sang, saisit l'âme d'une terreur panique.
Le chapitre qu'on va entendre par bribes tout au long de cette émission, c'est le chapitre 42, « The Whiteness of the Whale », la blancheur de la baleine, donc lu par Georges Kless. Et ce qui est fou, c'est que Ismaël énumère tous les motifs terrifiants de la blancheur, ou toutes les raisons, non pas toutes les raisons, mais une infinité d'exemples qui tendent à montrer que la blancheur est bien plus terrifiante que le noir ou que le rouge, par exemple. Que le noir est épouvantable, le rouge est sanguinolent, mais la blancheur, elle est ineffable, mystique, et au-delà de la terreur même. C'est l'indicible plotinien, presque, la blancheur. On est au-delà de toute terreur, tellement ça fait peur. Et ce qui est très frappant dans ce chapitre, c'est qu'à aucun moment, Ismaël n'explique les raisons de cette épouvante. Et ce chapitre magistral, qui est central dans le livre, qui est au milieu du livre, sur la blancheur de la baleine, est un chapitre qui ne commet pas l'erreur d'expliquer la valeur ineffable de la blancheur, mais qui se contente de la pointer.
Alors peut-être juste avant de parler de la blancheur de la baleine, on pourrait revenir juste deux minutes sur Ismaël, parce qu'il y a quand même une allusion à la Bible. Et Ismaël, dans la Bible, c'est celui qui est condamné à l'errance, au vagabondage.
Vous avez deux modalités du voyage. Vous avez le voyage et l'errance, en vérité. Le voyage se rend d'un lieu à un autre. L'errance ne sait pas où elle va. Le voyage a cet avantage, évidemment, d'encadrer tous les gestes que nous faisons pour nous rendre quelque part, de leur donner un sens, de les inscrire dans une finalité, dans une destination. Le problème de Moby Dick, c'est que c'est un voyage, par définition, sans retour, puisque le but qu'il se donne est un gouffre, c'est-à-dire une baleine blanche. Déjà, c'est un but qui n'existe pas, puisque la baleine blanche n'existe pas, c'est bien pour ça qu'elle parvient à couler le navire. Et c'est un gouffre. Donc, c'est un voyage qui, à mesure qu'on avance, c'est pour ça qu'il n'y a que Apocalypse Now qui ressemble à ce livre, c'est un voyage qui, à mesure qu'on chemine vers la baleine blanche, que le bateau s'approche de la baleine blanche et multiplie les présages et les signes. C'est un voyage qui prend les contours d'un vagabondage. C'est-à-dire que plus l'équipage est galvanisé par l'instinct de vengeance du capitaine Ahab qui ne pardonne pas à la baleine blanche de lui avoir arraché sa jambe, plus l'équipage est galvanisé par la baleine blanche et par la quête de la baleine blanche, moins le bateau sait où il se rend, sait où il va. De sorte que on est dans le vagabondage et on découvre rétroactivement qu'on est toujours dans le vagabondage. Et dans cette grande parabole sur la condition humaine qui est Moby Dick, il y a par exemple des passages tout à fait intéressants. Vous avez à la fin du chapitre 60, un moment étonnant où Melville dit « Tous les hommes vivent entourés de lignes à baleines. Tous naissent avec des cordes autour du cou. Ce n'est que lorsqu'ils sont devant une mort subite et rapide que les mortels aperçoivent les périls silencieux, subtils et toujours présents de la vie. » Et si vous êtes philosophe, bien qu'assis dans la baleinière, vous ne sentirez dans votre cœur pas plus de terreur que si vous étiez devant votre feu du soir avec un tisonnier et non un harpon auprès de vous. Pas plus de terreur, mais pas moins. Quand on est philosophe, on a beau être au coin du feu, on sait quand même qu'on va mourir. Et être philosophe, en l'occurrence, c'est s'approcher de Moby Dick. C'est se rapprocher de Moby Dick, c'est de se rapprocher de ce point ineffable, de ce non-retour, de cette absence de pourquoi, de ce gouffre qui est promis à nous engloutir avant que l'océan ne recouvre tout ça.
Mais très bien, mais il y a plusieurs quêtes quand même qui se superposent dans Moby Dick. Parce qu'il y a la quête d'Ismaël n'est pas tout à fait la même que celle de Ahab. Parce qu'à un moment dans le roman, Ismaël dit... Donc l'objet premier de son voyage, c'est, je cite, « l'idée irrésistible de la formidable baleine elle-même ». Donc la quête, l'objet de sa quête, c'est une idée à la base. C'est ce qui explique les quelques chapitres qui peuvent paraître assez étranges de cétologie ou avec des descriptions de la baleine.
C'est pas des chapitres, hein, c'est 200 pages. Il y a un moment, au milieu de Moby Dick, Ismaël part chasser sa mélancolie dans l'océan. La baleine est l'alibi d'un sentiment océanique dans lequel Ismaël espère diluer sa mélancolie. Évidemment, c'est une cause perdue. C'est la raison pour laquelle dans Moby Dick, vous avez des tas de moments où le marin contemplatif regarde l'océan. Vous avez également le moment où il s'apprête à signer pour aller sur le Pequod et où le type qui s'apprête à lui donner un 700e des revenus, c'est-à-dire rien du tout, peau de baleine, rien du tout en fait des gains du navire, mais Ismaël s'en fiche. Au moment où le type s'apprête à le signer, à signer son contrat, il lui dit va sur le pont et regarde ce que tu vois. Et Ismaël s'approche du pont et il voit l'océan, l'horizon, le soleil. Il dit voilà, tu veux voir du pays, ben voilà ce que tu verras. Tu ne verras que ça. Et il y a dans le livre, comme ça, des tas de moments où plusieurs marins, par exemple les seconds, sont successivement décrits, il y a un fil de pensée, on est dans leur pensée et ils regardent l'océan et ils ont cette espèce de sentiment océanique, ce vide absolu qui est comme un miroir trop fidèle de la vacuité de leurs existences, miroir fidèle, plus ou moins digeste. Et ces cœurs d'agneau, comme ils s'appellent, c'est-à-dire les baleiniers, ces êtres magnifiques, ces êtres surpuissants qui s'appellent entre eux mes petits agneaux, lambs, ces cœurs d'agneau ont également la force de méditer devant l'océan, c'est-à-dire d'en assumer le silence. Et au fond, c'est ce que Ismaël va rechercher. Ismaël recherche aussi le silence dont le quotidien le prive au point de le rendre mélancolique. Et puis, il ne faut pas tout expliquer après tout. C'est un homme mélancolique qui prend la mer quand il est mélancolique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est aussi évident qu'en définitive, inexplicable.
Le passage dont vous parliez, où Ismaël s'apprête à s'engager sur le Pequod, précède juste c'est juste après qu'il rencontre le prophète Élie. Enfin, le prophète, on l'appelle comme ça, parce que pour Ismaël, c'est juste un fou.
Ouais, Ismaël, c'est juste un fou. Mais il n'est pas fou du tout, Élie. D'abord, j'ai parlé du climat de prédiction qui règne dans Moby Dick. Il faut quand même savoir que c'est quasiment nostradamique, parfois. Ismaël dit à un moment « Mon voyage à la pêche à la baleine fait partie du grand programme que la Providence a établi depuis longtemps. C'est venu comme un petit intermède, un solo, entre de plus importants numéros. J'imagine que cette partie de l'affiche a dû être à peu près ainsi rédigée. » On est au tout début du livre, et voici ce qu'il dit. « Grande élection contestée pour la présidence des États-Unis, numéro 1. Numéro 2, voyage de pêche à la baleine par un nommé Ismaël. Numéro 3, bataille sanglante en Afghanistan. » On est dans Moby Dick. C'est stupéfiant quand on le lit, comment une telle entrevision. Évidemment, c'est de la pensée magique, là, pour le coup. Mais ce hasard extraordinaire ajoute au livre une dimension fabuleuse. Non seulement Ismaël présente son voyage comme un plan divin écrit, mais en plus, il a raison. C'est-à-dire, en plus, il prédit ce qui arrivera 2 siècles après lui. Et à cela s'ajoute la rencontre, je crois, au chapitre 19, avec Élie. Élie, c'est le prophète Élie, évidemment. C'est le fou de Nantucket. C'est un type qui leur dit, il arrive, il leur dit, vos noms sont-ils inscrits sur les papiers? Ils viennent de s'inscrire, Kekweg et Ismaël, donc le harponneur et la dernière personne du navire, c'est-à-dire Ismaël qui s'embarque comme simple marin. Vos noms sont-ils inscrits sur les papiers? Bon, ce qui est signé, et ce qui doit arriver, arrivera. En tout cas, tout est déjà fixé et arrangé, et il faut bien que vous ou d'autres marins aillent avec lui. Autant vous que d'autres. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que Élie, le prophète de Nantucket, désigne l'horizon d'un doigt tremblant et surtout bégaye. Celui qui annonce ce qui arrivera, au motif que ce qui doit arriver arrive, est également celui qui bégaye. Qu'est-ce à dire? Sinon que l'histoire bégaye. Le prophète, celui qui prédit ce qui arrivera, le prophète de l'histoire, celui qui déduit ce qui arrivera de ce qui est également un bègue. Et évidemment, ceci ne peut pas être anodin. Et c'est intéressant parce que Ismaël expédie Élie comme un dingue qui l'ennuie, mais les paroles d'Élie le hantent ensuite pendant tout le voyage. Et dès qu'il y a un présage, dès qu'il y a une prédiction, dès qu'il arrive quelque chose qui signifie quelque chose, les paroles d'Élie lui reviennent en mémoire. Quand les boussoles sont affolées par la foudre et se mettent à confondre l'Est et l'Ouest, les paroles d'Élie lui reviennent en mémoire. Quand les phoques se mettent à hurler dans des hurlements humains, les paroles d'Élie lui reviennent en mémoire. Quand le cercueil de Kekweg devient une bouée de sauvetage, les paroles d'Élie lui reviennent en mémoire. Idem quand il croise la Rachel dont le capitaine a perdu son fils et que Akab abandonne. Ou quand les faucons de mer lui tournent autour de la tête. Ou bien même quand l'un des canots se brise le premier jour de la chasse. La main du destin, dit-il, avait saisi leurs âmes. Les émouvants périls de la journée, l'incertitude torturante de la nuit qui venait de passer, l'allure obstinée, sans crainte, aveugle de leur vaisseau fou piquant vers son but volant, tout cela accélérait les battements de leur cœur, le vent qui gonflait leur voile à plein ventre et faisait nager le vaisseau comme s'il était poussé par des bras aussi invisibles qu'irrésistibles, tout était comme les manifestations symboliques de la divine volonté qui les asservissait à sa course.
Peut-on dire justement que Melville abolit une conception du temps linéaire, historique, au profit d'une conception du temps plus cyclique, vers une sorte d'éternel retour ou... Peut-être pas éternel retour, mais...
Je ne sais pas si on peut parler d'éternel retour. Il me semble qu'on est plutôt face à quelque chose qui est de l'ordre de l'irréversibilité. Le sentiment que ce qui est écrit doit arriver. Et je me demande au fond si ça n'est pas là une version recevable de la mélancolie d'Ismaël. C'est un étrange personnage, Ismaël. Parce que ce n'est pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est Akab. C'est le capitaine fou. Et dans le bateau, le Pequod, il occupe une place tout à fait secondaire.
Il est témoin.
Il est témoin. Mais c'est un témoin qui a... D'abord, il a du courage. Il accepte de monter en haut du mât alors qu'il n'a pas du tout l'habitude d'être dans la situation du vigie. Il a du courage. Il est ami avec Kekweg. Il faudra revenir là-dessus. C'est important, ça. Et il est mélancolique. C'est un témoin mélancolique. Moi, je me demande si la mélancolie de cet homme ne lui vient pas du fait qu'au fond, il ne doute pas de l'arrivée de ce qui doit arriver, si vous voulez, de l'extraordinaire fatalisme qui accompagne tout cela. Ismaël se laisse porter, se livre en aveugle au destin qui l'entraîne. Il se laisse porter. Il se laisse porter à une machinerie ourdie par le destin qui prend comme instrument la pulsion de vengeance folle d'un capitaine à la jambe en ivoire qui s'est fait arracher la jambe par une baleine blanche et qui a juré de se venger, quoi qu'il arrive. Eh bien oui, quoi qu'il arrive, c'est bien le problème. Arrive ce qui arrive. C'est-à-dire que tout ça est voué à l'échec. Il y a quelque chose dans la mélancolie d'Ismaël, dans l'inexplicable mélancolie d'Ismaël, dont j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas l'expliquer, quelque chose quand même de l'ordre d'une préscience, d'un pressentiment. Et quand on voit le climat de prédiction dans lequel baigne ce livre, on se dit qu'effectivement, il a raison d'être triste.
Alors revenons sur Kekweg, qui est justement l'image parfaite à la fois de l'altérité et de l'amitié, et dont on peut rappeler, vous l'avez dit, qu'à la fin, c'est sur son cercueil que justement Kekweg avait prédit sa mort peu avant et avait demandé au carpenteur de lui faire un cercueil. C'est sur son cercueil que pourra se sauver Ismaël.
Oui, il y a un moment dans le... Alors, Kekweg est un harponneur. Un harponneur exceptionnel. qui ne se nourrit que de viande saignante et crue, qui l'attrape comme ça, parce que ce sont de grandes tablées dans l'auberge de Peter Coffin. Il tend son harpon, qui fait 6 mètres, donc à l'autre bout de la table, pour attraper un morceau de viande saignante qu'il ramène à sa bouche avec une dextérité stupéfiante, sans heurter personne d'autre que le morceau de viande promis à son estomac. Kekweg est un fils de roi, c'est un Indien, c'est un homme dont le corps se donne à Ismaël, si j'ose dire, comme une énigme à résoudre. Hein. Il est recouvert d'inscriptions. Kekweg, c'est un palimpseste. Il porte la trace des anciens écrits. C'est une mémoire vivante. C'est un corps vivant. Et dans le même temps, c'est celui qui n'arrive pas à lire l'anglais. Mais il est en lui-même, c'est un homme livre. À cela s'ajoute le fait que Kekweg, c'est, comme dit Melville, un espérant au-dessus du désespoir. Une phrase tout à fait énigmatique qu'il emploie en ce sens. En quoi est-il espérant au-dessus du désespoir ? Kekweg a une forme de sérénité face à l'avènement des choses. C'est un homme qui a une sagesse inouïe. D'abord, il a un petit dieu, une petite idole, Yojo, dont les prédictions sont toujours vraies, là aussi. Hein. Toutes les prédictions de Yojo sont exactes. Qu'il adore et qu'il vénère et qu'Ismaël finit par prier en même temps que lui dans un grand moment antiraciste dont on parlera plus tard. Cet homme-là espère au-dessus du désespoir parce que c'est un homme qui surmonte la mort elle-même. Il y a un moment dans le trajet, dans le destin du Pequod, sur mer, en mer, Kekweg est saisi d'une mélancolie beaucoup plus violente que celle d'Ismaël et s'apprête à mourir. Il s'apprête à se laisser mourir, il se laisse mourir. Bon, à tel point que le charpentier, le carpenteur, lui construit un cercueil. Cercueil qu'il décore avec des inscriptions de sa façon, à la pointe de son harpon. Et puis une fois que le cercueil est prêt, organisé, avec un petit peu de nourriture, un petit coussin, la place pour le harpon, ou ce qu'il en reste, etc., Kekweg est tout content et il guérit. Et en fait, Kekweg mourra avec tout l'équipage du Pequod à la fin, sauf Ismaël. Sauf Ismaël, pourquoi ? Parce que du fond des océans ressortira le cercueil de Kekweg, dont Ismaël se servira comme d'une planche de salut. C'est grâce à une tombe que... Tombe, d'ailleurs, le mot n'est pas innocent. Hein. C'est grâce à une tombe qu'Ismaël lui-même ne sombre pas, corps et âme, corps et bien, avec le Pequod.
Vous parliez d'antiracisme. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment dire que leur amitié est le symbole de cet antiracisme ?
Ah oui, là, pour le coup, ça s'explique, ça. Mieux vaut dormir avec un cannibale sobre qu'avec un chrétien saoul, dit Ismaël. Je suis bon chrétien, né et élevé dans le sein de l'infaillible église presbytérienne. Comment pouvais-je m'unir à cet idolâtre pour adorer son bout de bois, se demande-t-il au moment où Kekweg l'invite à prier Yojo en sa compagnie. Mais pourtant, il le fait sans problème. Et en réalité, il en est tout à fait ravi. Et surtout, cette amitié entre Ismaël et Kekweg est un modèle de tolérance. Ça vaut à Ismaël des phrases tout à fait étonnantes. Un homme peut être honnête dans n'importe quelle peau. C'est le même homme d'ailleurs qui... dans le chapitre sur la blancheur de la baleine, liste au début toutes les choses favorables de la blancheur, toutes les raisons pour lesquelles tous les motifs de la prééminence de la blancheur. Parmi ces motifs, il y a la blancheur de la peau. Il dit, et d'ailleurs, les blancs dominent les noirs. C'est une hypothèse qu'il énonce dans la blancheur de la baleine. Or, le comportement d'Ismaël face à Kekweg et à New Bedford, qui est une Babel, hein, où tout le monde parle toutes les langues, comme l'équipage du Pequod, le comportement d'Ismaël face à Kekweg est le comportement d'un homme qui constate la délicatesse des sauvages, la délicatesse des cannibales, la délicatesse des barbares. Tout sauvage qu'il était, dit Ismaël, il ne pouvait pas cacher son âme. Or, son âme est bonne. De fait, un tout petit peu plus loin, à Nantucket, Kekweg sauve la vie d'un chrétien. C'est le sauveur d'un chrétien et il n'attend d'ailleurs aucune récompense pour le geste qui fut le sien. Il s'assoit ensuite serein, demande juste qu'on l'aide à se nettoyer un peu et l'air de dire, dit Ismaël, nous autres cannibales, nous devons d'aider les chrétiens. Il y a vraiment là une amitié fondamentale qui se noue, une école d'altérité, un apprentissage de la différence qui est merveilleux, dont on trouve un équivalent dans la relation entre Akab et le jeune Pip. type, c'est le petit noir du Pequod, qui fait de la musique, qui amuse tout le monde, qui distrait tout le monde, qui exaspère l'équipage de temps en temps, parce qu'il fait que des bêtises, il renverse des trucs, etc. À tel point qu'un jour, l'équipage le laisse tomber, c'est-à-dire l'abandonne dans l'eau pendant une journée entière. Et Pip est à ce moment-là, celui qui fait une expérience à ce moment-là traumatisante, puisqu'il a le grand pédalier du monde sous les jambes, et en fait, il fait une expérience pascalienne, c'est-à-dire l'écrasement entre les deux infinis. Et saisi entre les deux infinis, l'infini de l'océan et l'infini céleste, Pip devient fou. Et la folie de Pip, qu'au fond, les gens ne remarquent même pas, parce que comme il faisait le fou jusqu'ici, le fait qu'il soit fou ne change finalement pas grand-chose. La folie de Pip est prise au sérieux par Akab, par le capitaine fou lui-même, qui se retrouve dans ce petit noir qui se met à délirer. Et à un moment comme ça, Akab lui dit « Viens, Pip, en tenant ta main noire, je me sens plus fier que si je tenais celle d'un empereur. » Ce qui est une phrase évidemment magnifique, mais magnifique aussi par le fait qu'il faut bien se souvenir qu'Akab a une jambe en ivoire, c'est-à-dire une jambe blanche, et que là encore, la blancheur et la noirceur se tiennent la main dans une communauté de folie, qui est une communauté humaine en réalité. Et la folie de Pip, le rapport entre Akab et Pip, l'amitié, l'affection profonde d'Akab pour Pip, et l'admiration de Pip pour l'empereur capitaine Akab, est un écho à l'amitié de Kekweg et Ismaël, c'est-à-dire celui qui a l'oreille de Dieu et celui qui est... Si vous voulez, entre celui qui a l'oreille de Dieu et le palimpseste vivant, c'est-à-dire entre Ismaël et Kekweg, il y a le même rapport qu'entre le capitaine fou et le petit musicien, le petit mousse, qui lui-même, faisant le fou, devient fou à l'insu des autres hommes.
Et il y a aussi un autre paradigme de l'altérité, c'est la baleine, la baleine blanche, Moby Dick, parce qu'elle ne se capture jamais et ne fait que se révéler à des moments inattendus.
Mais nous n'avons pas encore éclairé le mystère incantatoire de cette blancheur, ni appris pour quelle raison elle frappe si puissamment l'âme. Et ce qui est plus étrange, et encore plus rempli de présages, pourquoi elle est à la fois le symbole le plus significatif des choses spirituelles, le vrai voile du Dieu chrétien, et en même temps l'agent qui rend plus intense l'horreur des choses qui épouvantent l'homme. Est-ce à cause de sa qualité indéfinissable qui fait sortir de l'ombre les immensités sans vie de l'univers et nous anéantit traîtreusement par la pensée de notre vanité quand nous regardons les blanches profondeurs de la Voie lactée? Est-ce parce que le blanc est moins une couleur qu'une absence de couleur, en même temps qu'il est le profond mélange de toutes? Est-ce cela qui donne son sens au vide muet d'un vaste paysage de neige? Cette chose sans couleur ou colorée par l'absence de Dieu qui nous fait reculer d'effroi? Et si nous considérons une autre théorie de ceux qui ont philosophé sur la nature, nous voyons que toutes les autres couleurs de la terre ne sont que de subtiles illusions. Aussi bien les douces teintes du couchant ou du feuillage des bois que le velours doré des ailes de papillon et des joues des jeunes filles. Oui, rien de tout cela ne fait partie intégrante des choses. C'est un simple enduit, et toute la divine nature est simplement peinte comme la grue dont le chatoyant plumage ne couvre que le charnier intérieur. Plus encore, l'enduit mystérieux qui donne toutes ces couleurs, c'est le grand principe de la lumière, et il est à jamais blanc, sans couleur. Si la lumière frappait directement la matière des choses, elle donnerait sa blancheur vide à tout, à la tulipe comme à la rose.
Vous tous, hommes de vigie, écoutez-moi bien. Vous chercherez la baleine blanche. Baleine blanche grosse comme une montagne neigeuse. Vous voyez ce doublon d'or espagnol? Charpentier, veux-tu me donner ton marteau? Celui d'entre vous, mes gaillards, qui le premier me parlera de la baleine blanche, gardera pour lui cette pièce espagnole d'une once, mes gars. C'est une baleine blanche, vous avez entendu. Crevez-vous les yeux pour ça.
Commandant.
C'est Moby Dick.
Commandant. Est-ce que ce n'est pas Moby Dick qui vous a pris votre jambe?
Oui. C'est Moby Dick qui a déchiré mon corps et mon âme jusqu'à ce qu'ils mêlent ensemble leur sang.
Thus, I give up the spear!
Akab, le capitaine Akab, on peut presque dire qu'il verse dans le délire paranoïaque d'une certaine façon.
Parce ne que... pense pas du mal du capitaine Akab parce qu'il a un vilain nom,
déclare le capitaine Truc. J'oublie son nom à chaque fois, celui qui embarque Ismaël au début du livre. L'autre nom d'Akab, vous savez ce que c'est?
Non.
Vieux tonnerre. Ah. C'est comme ça que l'appelle Élie, le prophète de Nantucket, justement. C'est le capitaine Vieux tonnerre, c'est pas innocent ça.
Mais justement, c'est parce qu'il, enfin, je veux dire, on peut dire qu'il est un peu paranoïaque parce qu'il refuse de considérer son accident comme contingent pour essayer d'en faire un petit peu l'image du mal universel. À un moment, il dit « Ne me parle pas ». Il répond à Starbuck, hein, son second, il lui dit « Ne me parle pas de blasphème, mon garçon, je frapperai le soleil s'il m'insultait ».
Ouais, je frapperai le soleil s'il m'insultait. Starbuck dit lui-même qu'obéir à Akab, c'est désobéir à Dieu. Vous auriez raison d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire si Moby Dick ne racontait qu'une chasse à la baleine. Alors effectivement, il arrive quand on chasse la baleine, manifestement, qu'on se fasse arracher la jambe. C'est pas des choses, c'est comme en cas de corrida, si vous voulez. Il arrive qu'on se fasse encorner. Bon, mais ça va beaucoup plus loin que ça. De la même manière que la corrida est plus métaphorique ou métaphysique encore que la simple expérience qu'on peut en faire, la chasse à la baleine dit bien autre chose ici. Et les ruisseaux de sang que versent les baleines, les différentes baleines que le Pequod attrape dans la mer, ont une autre signification. Ça n'est pas seulement du sang de baleine qui s'écoule. Il ne s'agit pas pour Akab d'un homme qui, s'étant fait par hasard arracher la jambe, considère que ça n'est pas un hasard et qu'il faut punir cette baleine-là. Non, c'est une baleine blanche qui a arraché la jambe d'Akab et dont il veut se venger. Et c'est une baleine blanche qui est tellement au courant de l'offense qu'elle a faite au capitaine Akab, c'est vous dire à quel point on est quand même dans une parabole, dans un grand roman métaphorique, elle est tellement au courant que quand le Pequod finit par retrouver Moby Dick comme une île blanche au milieu de la mer, avec son jet magnifique. Quand le Pequod retrouve Moby Dick, les baleinières sont immédiatement mises à l'eau et ils partent à la chasse ils partent à sa quête, à sa recherche. Enfin, plus exactement, ils vont essayer de la tuer. Peine perdue. Moby Dick échappe aux baleinières, mais surtout détruit littéralement les deux premières baleinières et épargne provisoirement celle d'Akab. Puis ensuite, elle plonge. Et elle ressort aussitôt, c'est-à-dire en principe, les baleines plongent pendant une heure, mais là, pas du tout. Elle ressort aussitôt en tenant dans sa gueule la baleinière d'Akab, à qui elle prépare un supplice de choix. De la même façon, Moby Dick, quand elle est pourchassée au troisième jour de chasse, après avoir détruit quelques baleinières encore, s'en va. Et Starbuck dit à Akab, « Akab, arrête, cette baleine ne te veut aucun mal, elle ne te pourchasse pas, elle ne t'en veut pas. » Et Akab, à ce moment-là, lui plante son harpon dans la baleine, pétri de vengeance, plante son harpon dans la baleine, et là, la baleine non seulement emporte Akab avec elle dans les profondeurs, ce qui là encore est hautement significatif, mais surtout détruit le Pequod et fait sombrer le navire lui-même. Ce que je veux vous dire, c'est que rien de tout cela n'est un hasard. En réalité, tout cela est un roman. C'est un roman sur la littérature elle-même. C'est un roman sur la possibilité même de la littérature. C'est-à-dire que l'huile qu'on extrait des baleines, puisque l'essentiel des baleines, c'est le commerce d'huile. L'huile qu'on extrait des baleines est un équivalent de l'encre de sèche, presque, qui sert à faire les écrivains. Et les requins qui s'en prennent aux pagaies des baleiniers sont un équivalent des lecteurs, voire même des critiques, dont Lautner parle, vous savez, comme de autant d'impuissants qui parlent d'amour. Les requins qui s'en prennent aux rames et aux pagaies sont l'équivalent des critiques littéraires. Donc il y a vraiment dans ce roman une parabole sur l'écriture. Je vous ai parlé d'un roman hugolien, Paola. Il est hugolien, par exemple, dans L'homme qui rit, dont on aurait pu parler. Hein. Dans L'homme qui rit, il y a un moment où Gwynplaine, le personnage principal, croise une potence. Et le dessin que forme la potence est en fait le dessin d'une main qui tient un stylo. Et quand les oiseaux, les corbeaux qui sont en train de ronger le cadavre, le gibet, s'envolent à l'arrivée du petit garçon, les oiseaux qui s'envolent ressemblent, sont la parabole de la littérature elle-même qui naît du sentiment d'être mortel. Il y a dans Moby Dick un équivalent permanent, si vous voulez, à cette parabole littéraire. C'est vous dire à quel point on n'est pas seulement dans une chasse à la baleine. Et surtout, la jambe d'Akab, c'est son récif, c'est son point fixe, cette jambe absente, cette jambe en ivoire, pour laquelle il a fait percer quelques trous sur le pont du navire qui lui permet de se tenir en différentes positions du navire en plantant sa jambe sur le pont du navire car Akab dort debout. Cette jambe en ivoire, c'est le récif de Descartes. Il dit un moment, il dit ceci, « J'aime une bonne poigne, j'aime sentir dans ce monde fuyant quelque chose qui puisse tenir ferme. » Et quand il dit ça, il pense à sa jambe, à la jambe qui a été mangée. C'est-à-dire que Akab est celui dont la folie lui vient aussi d'une certitude dont il a la nostalgie et qui, faute d'être une certitude, a pris la forme d'une vengeance. C'est aussi un philosophe dont le récif s'est dégonflé, si vous voulez, et qui est rendu à l'errance qu'il avait voulu conjurer. Dans l'ordre des paraboles, je veux dire, Akab dit « Je laisse un sillage blanc et trouble, des joues pâles, partout où je vogue. Les vagues jalouses se gonflent pour effacer les marques de mon passage. Qu'elles le fassent, moi, je suis quand même passé. Autrefois, le soleil couchant m'apportait le calme. C'est fini maintenant. » Cette belle lumière ne m'éclaire pas. Toute beauté est angoisse pour moi puisque je ne peux jamais en jouir. Doué de haute compréhension, le pouvoir moins haut de m'en réjouir me manque. Je suis damné d'une manière très subtile et méchante. Je suis damné au milieu du paradis. Bonsoir, bonsoir, se dit celui qui se désigne lui-même comme le frère de lait de toutes les vagues de l'eau.
Comme si j'étais le vieil Adam, écrasé sous les siècles amoncelés depuis le paradis. Approchez-vous, Starbuck. Approchez-vous de moi. Laissez-moi me plonger dans un regard humain. Ça vaut mieux que de fixer l'océan ou le ciel.
Qu'un marin approche de nuit les côtes de pays étrangers, qu'il entende le grondement des brisants et le voici alerté. Il ressent juste ce qu'il faut de peur pour aiguiser toutes ses facultés. Mais dans des circonstances identiques, tirez-le de son hamac pour lui faire voir son bateau voguant sur une mer nocturne d'une blancheur de lait, comme si venu des cirques des montagnes proches, des troupeaux d'ours blancs bien peignés nageaient autour de lui, et vous le verrez éprouver une terreur superstitieuse qui le rendra muet. Le fantôme des eaux blanches le terrorise autant qu'une vraie apparition. C'est en vain que le plomb de la sonde lui assurera qu'il est encore loin des écueils. Cœur et gouvernail lui manqueront, et il n'aura plus de repos tant qu'il ne sera pas de nouveau environné d'eau bleue. Pourtant, où est-il, le marin qui avouera, « Sœur, ce n'est pas tant la blancheur de toucher un écueil que la peur de cette hideuse blancheur qui me bouleverse ainsi. » Secondo, pour l'indigène du Pérou, la vue des Andes continuellement coiffées de neige n'a rien de terrible, sauf peut-être par la simple imagination de la désolation des glaces éternelles qui règnent à de si hautes altitudes, et dans l'idée toute naturelle de la peur qu'il éprouverait s'il était perdu dans des solitudes aussi inhumaines. De même pour l'homme des forêts de l'Ouest qui, avec une indifférence relative, contemple une prairie illimitée couverte de neige sans qu'une ombre d'arbre ou un buisson vienne rompre le charme de la blancheur figée. Il n'en est pas de même pour le marin, devant le spectacle des mers antarctiques, où, parfois, par un tour de passe-passe des puissances du gel et de l'air, grelottant et mi-naufragé qu'il est, il voit, au lieu de l'arc-en-ciel d'espoir, quelque chose qui ressemble à un immense cimetière, le narguant de tous ses mausolées de glace et de toutes ses croix effritées. Mais direz-vous, ce chapitre sur la blancheur semble n'être qu'un drapeau parlementaire arboré par une âme froussarde. Vous vous laissez aller à l'hypocrisie, Ishmael. Dites-moi alors, pourquoi ce jeune et fort poulain, né dans quelque paisible vallée de Vermont, très loin de toute bête fauve, pourquoi par le jour le plus beau, ensoleillé, si vous agitez seulement une peau fraîche de buffle derrière lui, sans même qu'il puisse la voir, mais qu'il sente l'odeur musquée de cet animal sauvage, pourquoi tressaillera-t-il, hennira-t-il, et, les yeux exorbités, se mettra-t-il à gratter la terre avec une terreur frénétique ? Dans sa verte prairie septentrionale, et en lui, il n'y a aucun souvenir d'éventrement par des bêtes sauvages. De sorte que l'étrange odeur musquée qu'il sent n'est pas associée à l'expérience d'un danger antérieur. Que sait-il, ce poulain de la Nouvelle-Angleterre, des bisons noirs de l'Oregon lointain ? Ici, vous voyez donc que, même dans une bête muette, l'instinct est révélé du démonisme du monde. Il a beau se trouver à des milliers de milles de l'Oregon, quand il renifle cette sauvage odeur musquée, les troupeaux de bisons qui déchirent et éventrent lui sont aussi présents qu'aux poulains sauvages des prairies qui sont peut-être à ce même moment foulés dans la poussière. Ainsi, les grondements étouffés d'une mer couleur de lait, les bruits froids des glaçons festonnant les montagnes, les neiges balayées par le vent sur les prairies sont pour moi, Ishmael, comme la peau du buffle pour le poulain effrayé. Quoique ni l'un ni l'autre nous ne sachions où se trouve la forge de ce feu mystique, pour moi, pourtant, comme pour le poulain, cette forge doit exister quelque part. Et, bien que nombre d'aspects de ce monde visible semblent être formés par l'amour, les sphères invisibles furent forgées dans de la peur. Dès qu'on comprend tout cela, on voit alors la peau lépreuse de l'univers. Et, comme le voyageur têtu qui refuse de mettre des lunettes noires sur les glaciers de Laponie, si, pauvres, misérables que nous sommes, nous nous obstinons à regarder à l'œil nu le gigantesque suaire blanc qui enveloppe toutes les choses, nous sommes irrémédiablement aveuglés. La baleine blanche était le symbole de tout cela. Vous étonnerez-vous maintenant de la férocité de la chasse ?
Quelle est cette chose ? Innommé, insondable et surnaturel, qui commande en moi et qui, sans se soucier des amours humaines et des désirs, continue à me pousser, à me forcer, à me presser sans cesse d'accomplir des actes que dans mon propre cœur naturel, je n'oserais rêver d'accomplir. Est-ce que Akab est Akab ? Est-ce moi, Seigneur ? Qui d'autre alors soulève ce bras ?
Est-ce qu'on peut parler, pour Moby Dick, comme certains critiques l'ont fait, de contre-Bible ?
Oui, contre-Bible dans la mesure où la contre-Bible est tributaire de la Bible. Il y a quand même un personnage dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est fou d'ailleurs, c'est Jonas, qui est non pas le personnage principal, mais qui est le personnage conceptuel principal de Moby Dick. C'est lui qui fait l'objet d'une exégèse talmudique ou kabbalistique extraordinairement savante du révérend père Maple, qui est incarné par Orson Welles dans le film, et qui est un...
une exégèse d'une complexité abyssale, une grande parabole sur le pardon, le rapport de Jonas au pardon, les trois jours à l'intérieur du ventre de la baleine comme un pressentiment de la résurrection, du temps qui précède la résurrection du Christ. Enfin bon, il y a toute une série de paraboles autour de des figures bibliques anciens, comme Nouveau Testament dans Moby Dick. Et si je dis de Moby Dick que c'est mieux que la Bible, c'est précisément parce que je crois que Moby Dick ne s'embarrasse pas tant du sens à donner aux paraboles que ce livre met en œuvre. C'est en cela plus fort, je crois. C'est plus frappant, si vous voulez. L'Éternel ne parle jamais. Pourtant, ses voies sont écrites, son destin est tracé, ce qui doit arriver arrive. Et au fond, il ne parle, plus exactement, il ne se laisse entendre que pour laisser entendre l'avènement de ce qui doit arriver, une sorte de fatalité absolue qui est tellement fatale et tellement fataliste qu'elle n'en est même plus providentielle. Mais contre Bible, oui, au sens où Akab, c'est un rebelle. C'est un rebelle puisque c'est celui qui remplace la soumission à l'ordre de Dieu par la soumission à sa vengeance. C'est celui qui fait valoir, d'ailleurs dans l'extrait qu'on a entendu, sa propre volonté contre la volonté de Dieu, à la façon dont Sganarel lui-même, dans Don Juan, vante le fait de disposer d'une volonté qu'il oppose à toute autre forme de libre arbitre providentiel. Akab, c'est un drôle de blasphémateur, c'est un blasphémateur qui prie. Vous savez, il y a des prières d'Akab, mais il prie le grand esprit clair, comme il dit. « Je te connais bien, clair esprit, et je sais désormais que la meilleure façon de t'adorer est de te défier. Tu n'es sensible ni à l'hommage ni à l'amour, et pour ce qui est de la haine, tu ne sais que tu es, et tu détruis tout. Ce n'est pas un idiot téméraire qui t'affronte maintenant. Je confesse ta puissance qui est partout, sans qu'elle puisse avoir le moindre droit sur moi-même. Au milieu de l'impersonnalité générale, ici se tient quelqu'un. J'ai confessé ta puissance qui est partout sans nuit. » Sublime, prière d'Akab. Les Kekweg prient une idole de bois, prière absurde aux yeux du presbytérien Ismaël, presbytérien qui a quand même un nom musulman. Kekweg prie une idole de bois, Akab prie le grand esprit clair, et dans le même temps, il se défend d'être l'antéchrist. Il y a un autre passage dans Moby Dick où Akab, qui est constamment contredit par son second, Starbuck, lequel reste sur le Pequod au moment où Moby Dick fait couler le navire et rêve à ce moment-là d'être au pays des cerises. Akab dit ceci, il dit « Il me croit fou » au pluriel. Starbuck surtout le croit, mais je suis démoniaque. Je suis la folie elle-même rendue furieuse. Ma folie est cette folie sauvage qui ne se calme que pour mieux s'étudier et se comprendre. La prophétie disait que je serais démembré, et oui, j'ai perdu cette jambe. Maintenant, moi, je prédis que je démembrerai celui qui m'a démembré. Que le prophète et celui qui accomplit les prophéties ne fassent qu'un. C'est plus que ce que vous n'avez jamais été, vous, Dieu grand. Je me fous de vous tous. Le chemin de ma résolution a des rails de fer, et mon âme y court avec des roues creuses, au-dessus d'insondables gorges, à travers les cœurs arides des montagnes, sous les lits des torrents, sans me tromper, je roule. Rien sur ma voie de fer ne peut m'arrêter, ni obstacle, ni traverse. Mais voyez, Paola, le problème, c'est qu'il perd. Akab, c'est la plus belle défaite de la littérature. Il perd, il prend une raclée. Moby Dick l'emmène avec lui. Oh, il perd avec les honneurs. Il se bat avec la baleine, ça a de la gueule. Il est accroché au ventre de la baleine. Il est maintenu par les filins qu'il a lancés lui-même. Et la baleine l'emmène avec lui pendant qu'il continue de lui planter son harpon. Oui, mais il perd. Akab disparaît. Akab sombre. Cette résolution de faire, cette volonté folle, échoue. Ce titan est vaincu par plus fort que lui. Il est vaincu par une baleine blanche, une baleine dont la blancheur renseigne à la fois sur la puissance et sur l'inexistence. C'est-à-dire sur le fait qu'au fond, chercher un sens à la vie échoue devant l'absence de réponse que la vie nous propose. C'est aussi un grand roman sur l'absurde, Moby Dick. Et la défaite d'Akab, c'est très difficile de ne pas interpréter la défaite d'Akab comme une défaite du sens ou de la quête d'un sens fallacieusement cherché dans une vengeance qu'on cherche à assouvir. Mais la vengeance n'est ici que le prête-nom du désir de trouver un sens à la vie, peut-être.
Défaite qui était prédite en fait depuis la prophétie d'Élie et puis même peut-être depuis le sermon de Maple qu'on pourrait écouter.
Quelques morceaux du sermon de Maple avant de rendre l'antenne.
L'Éternel avait préparé un grand poisson pour avaler Jonas. Les matelots, le péché de Jonas fut d'avoir désobéi au commandement de Dieu. Il le trouvait trop dur, ce commandement. Et il l'était, oui, matelot, tout ce que Dieu nous ordonne est toujours ardu. Car obéir à Dieu, c'est se désobéir à soi-même. Mais Jonas nargue à Dieu bien davantage en cherchant à fuir de sa vue. Jonas pense qu'un navire fait de main d'homme pourra le conduire dans un pays où Dieu ne règne pas. Il rôde le long des embarcadères comme un voleur qui aurait hâte de traverser les océans. Comme il monte à bord, les marins le désignent du doigt. Le navire prend le large. Mais bientôt l'océan se rebelle, ne voulant pas porter ce méchant fardeau. La tempête se déchaîne subitement, le navire va sombrer. Le maître d'équipage décide de l'alléger. Et les bagages, ballots, jarres, tout est jeté par-dessus bord. Le vent fait rage, les matelots hurlent. « Je crains le Seigneur !» sanglote Jonas, le Dieu du ciel qui a créé les océans, l'air et la terre ferme. Alors, on le désigne du doigt à nouveau. Le malheureux Jonas les supplie de le jeter à la mer, parce qu'il sait que c'est pour son salut que cette violente tempête s'est abattue sur eux. Et maintenant, voyez Jonas soulevé comme une ancre et que l'on jette dans les flots, dans les affreuses mâchoires qui l'attendaient. Et voilà la grande baleine qui referme aussitôt toutes ses dents d'ivoire comme autant de blancs verrous au-dessus de sa prison.
Voyez l'ours blanc des pôles, le requin blanc des tropiques. Qu'est-ce d'autre que leur blancheur lisse et floconneuse qui les rend horribles à voir? Cette blancheur abominable, d'une affreuse douceur, rend même plus répugnant qu'effrayant leur aspect muet et dévorant. Si bien que la vue du tigre lui-même, avec ses féroces moyens de défense et son pelage héraldique, ne peut abattre le courage comme le fait la vue de l'ours blanc ou du requin. Voyez l'albatros. D'où proviennent donc ces nuages d'émerveillement spirituel et de pâle horreur parmi lesquels ce blanc fantôme vole dans toutes les imaginations? Ce ne fut pas Coleridge qui, le premier, lui donna ce charme. Mais Dieu, ce poète méconnu qui fit la nature du monde.
Oïsoé, courage baleinier. Cette baleine était connue pour sa taille et sa blancheur, la plus coriace qu'on ait vue de mémoire de pêcheur. Car Moby Dick pouvait, dit-on, d'un simple coup de rein, envoyer rouler par le fond un navire et ses marins.
Merci Paola, c'est assez pour aujourd'hui. Merci à tous, c'est-à-dire Georges Claes, notre lecteur, mais aussi François Connac, votre réalisateur, Jean-Michel Bernaud à la technique, et Alice Ramon, notre attachée de production. Si vous ne pouvez pas lire Moby Dick en anglais, eh bien c'est tant mieux, car la traduction qu'en propose Jean Giono dans l'édition de poche est tout simplement magnifique. Plongez-vous, Derechef, dans ce roman océanique. Vous n'en reviendrez peut-être pas vivant, mais heureux.
Et sachant qu'était promis, un Louis d'or à qui le premier verrait sa vieille ennemie. Oïsoé, courage baleinier, nous cinglerons vers le Pacifique pour harponner Moby Dick. Cet animal est un vrai démon, mais nous l'aurons nom de nom, mais nous l'aurons nom de nom.
Et puis on vous donne rendez-vous naturellement la semaine prochaine pour une émission sur Épicure, chers auditeurs, en partenariat avec Philosophie Magazine, qui consacre son dossier sur Épicure, avec notamment la contribution de l'excellent Marcel Conche. La lettre à Ménécée d'Épicure, c'est au programme du Gai Savoir dimanche prochain.
Bien des harpons restaient plantés dans l'épaisseur de son cuir, dont ne semblait pas s'inquiéter notre vieille dure à cuire. Et lorsqu'elle sortait des eaux terribles et fantastiques, on croyait voir surgir le dos d'un énorme porc épic.
Épicure toujours, Épicure d'abord, ou Épicure de rappel, comme dit Philippe Palares, samedi 25, donc la veille,
au théâtre de l'Odéon pour la reprise de ces rendez-vous que France Culture organise en partenariat avec le théâtre de l'Odéon, le théâtre de l'Europe, autour de la pensée des grands philosophes. Un rendez-vous intitulé cette année « Le régime des passions » et dont la première occurrence est le samedi 25 avec Jean Salem comme invité et naturellement Julie-Marie Parmentier comme lectrice.
Car si capitaine et marin sont morts, la baleine court encore. Maurice, ohé, courage.
Enfin, retrouvez, si la philosophie vous manque, toute la semaine, la philosophie inventive sur France Culture, c'est-à-dire les nouveaux chemins de la connaissance, tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 11h, pour une semaine sur le travail. 17h sur France Culture, dans un instant, Ali Rebéi.